ce chant « Confie à Dieu ta route », c'est comme les chrysanthèmes. C'est dommage qu'on ne puisse les prendre que la fête des morts. En Alsace, ce chant n'est chanté à toutes les obsèques, dans les branches plus historiques du protestantisme. Les réformés, les luthériens utilisent beaucoup ce chant, les pasteurs l'utilisent beaucoup lors des obsèques, et c'est dommage. C'est dommage non pas pour les obsèques, mais je veux dire par là qu'on peut difficilement après l'utiliser pour tous les jours. Si on m'enfermait dans une caverne au milieu d'un désert, kidnappé par des méchants soldats au milieu de nulle part, je crois que c'est ce chant que je garderai avec moi, au fond de mon cœur. C'est pas prévu, hein, ça sera peut-être une prédication d'émotion, mais voilà. Parce que tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Et je ne sais pas si c'est un chant anglais composé au départ ou si c'était français. Il y a un hymnologue peut-être parmi nous, je ne sais pas, parce que le mot « peut » aurait peut-être l'avantage d'être élargi et se dire « tout chemin qu'on t'impose va devenir le sien ». Et merci à l'équipe musicale et à Adrien d'avoir choisi ces chants, ce chant en particulier. Et puis la prédication va être un peu le prolongement de ces paroles très fortes qu'on a entendues, qui d'ailleurs m'ont fait réfléchir un peu. Je me suis dit, il vaut mieux arriver à l'heure au culte du dimanche matin, parce qu'imaginez que vous ayez un peu de retard, vous pensez à rien de particulier, vous franchissez la porte là, et on est en train de chanter le chant « Béni sois-tu Seigneur pour ta bonté », etc. Mais au lieu d'arriver à la bonne strophe, vous arrivez à celle d'après. Hein, « Béni sois-tu Seigneur quand je traverse le désert ». Ça m'est arrivé d'entrer dans une salle de culte au moment où on chantait ça, et il y a des paroles comme ça, sans contexte, qui doivent être difficiles à recevoir. Et nous allons donc poursuivre cette réflexion autour de la vie de Job. Mais avant, nous allons nous poser une question. Je la formulerai sous trois questions, enfin sous trois propositions. Ma vie de disciple de Jésus-Christ est-elle exempte de toute attente ? Ma vie de disciple en Jésus-Christ est-elle exempte de toute attente ? Le mot attente devant être compris comme retour sur investissement. Formulé autrement, on pourrait demander, est-ce que j'espère une contrepartie divine à ma consécration ? Encore plus simple, est-ce que mon amour pour Dieu est bien un attachement désintéressé ? Est-ce que mon amour pour Dieu est bien un attachement désintéressé ? Avec cette petite introduction, je vous invite à lire l'introduction de Job, Job chapitre 1, du verset 1 au chapitre 2, verset 10. Il y avait dans le pays d'Outz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7 000 brebis et 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres, donnaient tour à tour un festin, ils invitaient leurs 3 sœurs. À manger et à boire avec eux, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur,
Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. »
Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille, tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays ? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le récit se poursuit sur le même schéma, la même assemblée se tient, Satan n'en reste pas là, il dit « touche à sa santé et tu verras, peau pour peau, il te maudira en face. » Et donc Job se retrouve, après avoir tout perdu, se retrouve affecté d'un terrible mal, et il va se retirer ou se mettre sur ce qu'on peut imaginer comme étant un tas d'ordures, quelquefois traduit par un tas de fumier. Conclusion de l'histoire. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, nous retrouvons notre question de départ. Je la lis dans la traduction parole de vie. Vous savez que c'est une traduction biblique qui emploie que le présent quand c'est possible, avec des phrases courtes, sans deux propositions. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le français, vous pouvez utiliser la parole de vie. Moi, je l'utilise beaucoup parce que je ne suis pas un grand littéraire. Donc, la version parole de vie dit « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ?» Voici donc la fausse question de Satan à Dieu à propos de Job. Et ce n'est pas une question, c'est un pari. Le pari diabolique. Satan va miser sur Job. Et il va dire, je parie qu'il n'existe pas de relation saine, de relation pure entre un homme et son Dieu. Et on va le prouver, puisqu'il y a là un spécimen idéal qui a toute la faveur de Dieu, qui a toutes les richesses. Il suffira de lui enlever ce qu'il a et on va voir le résultat. Donc Satan parie sur la chute de Job, démontrant ainsi qu'il n'y a pas de salut pour l'homme. Démontrant ainsi que l'homme va se retrouver forcément toujours enfermé dans une relation donnant-donnant entre lui et ses dieux. Là, Job a le Dieu, l'Éternel, mais d'une manière élargie, toute l'humanité est ainsi enfermée dans une relation donnant-donnant avec Dieu. Il n'y a pas de relation non marchande. Ça, c'est le pari de Job. S'il le gagne, il n'y a plus de salut pour personne. Il n'y a qu'un enfermement dans une course à l'approbation de Dieu en échange de certaines choses. Si Satan est vaincu, si Job ne pêche pas, Dieu apporte la preuve qu'un homme peut construire une relation gratuite entre lui et son Créateur. Ça va ? Jusqu'ici ? Ça va devenir un petit peu plus compliqué par la suite. On va essayer de poser bien les bases. Voilà donc l'enjeu. Résultat des courses. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Verset 22 du chapitre 1. Après la deuxième vague d'épreuves, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc Satan est vaincu. Pari perdu. Fin de l'histoire. Finalement, le livre de Job est plus accessible qu'on le pense, puisque Il n'y a qu'un chapitre et demi, même pas deux chapitres entiers, et l'histoire est terminée. En tout cas, cette partie de l'histoire que j'ai nommée le pari diabolique. Ensuite, il y a l'arrivée de trois amis qui viennent consoler Job. Et on va entrer... Là, il n'y a plus question de Satan. Il n'est plus question d'assemblée céleste. Il est question d'une petite réunion fraternelle, parce que ce sont des frères, ils s'appelleront comme cela, et qui vont d'abord porter le deuil pendant une semaine sans rien dire, et puis ensuite, ils vont commencer à échanger. C'est Job qui va commencer à pleurer et à faire sortir un peu tout ce qu'il y a dans son cœur. Et puis après, il va y avoir des réponses. Eh bien, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 32, si je m'abuse, ou même 38, il y a un tribunal humain, en fait. Ça va tourner vinaigre, ça ne va pas être agréable pour personne, ça va être vraiment un tribunal. Et alors les trois personnages, les trois consolateurs s'appellent Éliphaz, Bildad et Tsophar. Éliphaz, voici des échantillons de ce qu'il dit à Job. Éliphaz lui dit « L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. » Ce n'est pas une phrase théorique, il s'adresse à Job. Il faut remplacer l'insensé et le fou par Job. Job périt dans sa colère, Job meurt dans ses emportements. Il répond ça au chapitre 5, verset 2, en réponse à la bile et à l'aigreur que Job fait ressortir. Et Bildad, souvenez-vous, dans notre récit, on a bien noté que Job avait des grands troupeaux, des grandes richesses, mais il avait aussi une belle famille, des enfants. Il a tout perdu. Voilà ce que dit Bildad au chapitre 8. « Si tes fils ont péché contre le Tout-Puissant, il les a livrés à leur péché. » Éliphaz, toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tsophar dit à Job, où il parle de l'impie, en pensant fortement à Job, l'impie a englouti des richesses, il les vomira. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Je n'ai cité que quelques phrases là, mais du chapitre 2 jusqu'au chapitre 38, c'est à peu près de cette teneur-là. Comme on dit, vulgairement, Job est habillé pour l'hiver. Voyez toutes ces affirmations de ses amis, de ses frères, voyez cela, donc 36 chapitres, et mettez-le en parallèle avec ce que Dieu vient de nous dire. Où étions-nous ? Nous étions dans l'assemblée céleste. Tous les anges étaient là, les meilleurs comme le pire. Tous ont entendu ce jugement. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà le verdict de Dieu, la pensée, l'opinion de Dieu sur Job. Et voilà ce que les hommes disent, les proches de Job. Insensé, péris dans ta colère. Si tes fils ont péché, ils l'ont mérité. Et toi, tu détruis la foi avec tes raisonnements. Et l'impie a englouti ses richesses et il recevra à la place la colère de Dieu. En fait, ces trois amis, dans leur emportement, coupables, veulent entraîner Job sur le terrain de la rétribution. Ils veulent tirer Job sur le terrain mouvant d'une relation négociée avec Dieu. Ils disent, quand tu étais riche, tu n'avais que l'apparence de la droiture, mais puisque Dieu t'a tout pris, ton injustice apparaît. Tu es payé en retour de ce que tu as fait. Et Job, devant... Comment va réagir Job? Vous le sentez comment, là? Ils sont tous les quatre autour d'une bière, là. Et... C'est terrible, c'est sanglant. Quelle est la posture de Job? Comment il va accueillir ça? Bon, même chose, je cite quelques réflexions, mais il faudrait tout lire. Mais mes frères sont perfides comme un torrent. Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Au chapitre 13. Et puis la célèbre exclamation du chapitre 16. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Vous m'avez insulté trop souvent. En fait, vous me reprochez ce malheur qui m'arrive et ainsi vous voulez avoir raison contre moi. Quelle est la posture de Job? Eh bien, il refuse de brader sa conscience. Il a la conscience pour lui. Il sait quelle est son intégrité. Il la connaît. Mais il ne sait pas pourquoi tout ce malheur lui arrive. Donc il résiste à la fois. Il doit résister sur deux fronts. Il doit résister sur le front de ses amis qui veulent l'emmener à se repentir d'un péché qu'il n'aurait pas commis, d'un état dont il n'aurait rien à voir avec. Et il doit résister, eh ben finalement, au piège diabolique du début. Maudit Dieu, puisque tu n'as pas de réponse de lui. Mais Job demande, chapitre 10, demande seulement à Dieu, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Alors, bilan de ces 36 chapitres, je le reconnais, c'est un peu bref, un peu court, mais eh bien, ce tribunal humain, c'est la vie fraternelle. Un exemple de ce que peut devenir la vie entre nous. Nous, frères et sœurs, qui essayons d'accompagner ceux qui traversent l'épreuve. Si, et souvenons-nous de la phrase du départ, si nous acceptons la question tordue de Satan, est-ce que l'attachement de Job à son Dieu est désintéressé? Donc cette épreuve de Job va avoir des prolongements intéressants pour notre vie d'église, pour notre relation entre nous, chrétiens. Je cite à titre d'exemple une personne qui a vécu le deuil de plusieurs de ses enfants, c'est une histoire vécue, et qui après cela va perdre son conjoint, et qui va trouver dans l'église des consolateurs fâcheux qui vont lui dire « Mais tu es sûr quand même que tout ce qui t'arrive, là, il n'y a aucune raison là derrière. Sous-entendu, cherche bien, tu devrais savoir pourquoi il t'arrive tout ça. » Ce qui arrive à Job, c'est rien de moins que cela. Cette vie fraternelle qui devient dysfonctionnelle, qui devient violente, qui devient terrible, qui devient finalement l'objet de pertes, et de prise de distance. La personne en question est restée dans l'église, elle continue de venir, mais elle aurait eu ses raisons de partir. Eh bien, ce dysfonctionnement est basé sur le fait que les trois amis de Job n'ont pas rejoint le verdict de Dieu sur Job. Mais ils avaient une géographie dans leur tête, ils avaient un plan, ils avaient bien compris comment ça se passe dans le monde. Dieu donne aux bons, il retire aux méchants, pour faire à peu près simple. Donc cet exemple terrible de relation fraternelle qui se détruit là devant nos yeux entre Eliphaz, Bildad et Tsophar d'un côté et Job de l'autre, Eh bien, est-ce que cette image, cette histoire n'est pas une démonstration, ou plutôt une question sur la qualité de nos relations fraternelles? Est-ce que, on va le poser comme ça, plus ouvert, est-ce que la qualité de nos relations fraternelles démontre une spiritualité saine, je la qualifierais de non-rétributive? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu technique, non-rétributive. Mais, en quelque sorte, pour faire beaucoup plus simple, est-ce que l'Évangile, c'est bien clair dans notre tête? Voilà, ça va mieux? Voilà. Est-ce que notre vie fraternelle est dans le prolongement de notre adoration désintéressée, puisque nous savons quelle est notre réputation devant Dieu et à qui nous la devons? Alors, on pourrait laisser cette question, hein, je la répète, est-ce que notre vie fraternelle est dans le prolongement de notre adoration personnelle désintéressée? Alors, si je laisse la question ouverte, vous allez répondre oui, des fois oui. Et puis d'autres fois, ben non. Quand je vois quelqu'un qui agit comme ça, ou qui lui arrive quelque chose, je me dis, ah, ça vous est jamais arrivé cette petite pensée? Moi, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'avait vraiment fait du mal, et il lui arrivait quelque chose de terrible. Je me suis dit, bien fait. Je me suis dit, non. Gérard, reprends-toi. Laisse la colère, là. Laisse passer du temps. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Impossible. On n'est pas au tribunal de Dieu. On est dans la vie fraternelle qui repose sur le même socle. Voilà. Donc, on ne peut pas rester sur ce simple bilan. Oui, il y a des fois oui, des fois non. On va faire l'effort pour que ce soit le plus souvent possible oui et presque jamais non. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin avec Job et de considérer Jésus-Christ à travers Job. Nous allons entrer dans un terrain un peu délicat théologiquement, ce qu'on appelle les types de Christ dans l'Ancien Testament. Il y a une phrase célèbre, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est ancienne. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. C'est ça. Saint Augustin. Waouh. Yes. Bon, il faut que je révise mes classiques, là. Saint Augustin. Et donc, l'Évangile est caché, et si Jésus-Christ est caché dans l'Ancien, on va essayer de le trouver dans le prolongement de la vie de Job. Alors, je dis que c'est un peu risqué, parce que quelquefois, ça donne lieu à des choses un peu curieuses, mais quand même. On a un peu de matière, là. D'abord, le verset 8 du chapitre 1 a retenu toute mon attention, puisqu'il est dit de Job, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Ah, voilà un premier indice très intéressant. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Chapitre 1, verset 8. Ça vous rappelle bien sûr quelqu'un. Ensuite, Job est dans le viseur de Satan. Je n'ai pas pris le temps de revérifier ça, mais il me semble de mémoire que Satan ne se déplace pas souvent. Il est le décompte rapide, il y a la Genèse, il y a avec Jésus. Il y en a d'autres avec David? Non. En scène, hein, face à face. Vous voyez d'autres? Après, il y a l'Apocalypse où il est en scène pour la fin, le clap de fin. Vous voyez d'autres? Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ça veut dire que quand Satan est face à face avec l'homme, on n'est pas loin de l'Évangile. On n'est pas loin de l'Évangile. Dans le sens où, s'il veut détruire quelque chose, c'est bien le cœur de ce qui fait toute notre foi et notre vie. Donc voilà, Job est dans le viseur de Satan. Donc on va voir Christ à travers Job. Ensuite, et je l'ai déjà dit, Job reçoit la pleine et entière approbation de Dieu. Et ceci dans le ciel du ciel, devant l'assemblée des anges. Et puis, Job, avec tout cela, il vit sur un tas d'ordures. Alors, c'est marqué un tas de fumier. J'ai imaginé les tas de fumier, mais chez nous, enfin chez moi, un tas de fumier, c'est un truc, enfin c'est de la paille avec les excréments d'animaux à l'extérieur d'un bâtiment qui s'entassent. du cochon, de la vache ou des choses comme ça. Mais à l'époque, ils n'avaient pas des troupeaux enfermés, ils avaient des troupeaux. Alors, ce n'était pas du fumier à proprement parler. Je pense qu'en réalité, le tas dont il est question, où il va s'asseoir, c'est le tas d'immondices à la sortie du village, qu'on a connu pour les plus anciens d'entre nous, avant que la législation française s'occupe de ce grave problème de déchets urbains. On avait un trou. D'ailleurs, en alsacien, il y a un nom pour ça, le... La traduction, ouais, on va laisser tomber la traduction, mais il est superbe ce mot pour décrire ce mot, c'est vraiment le, voilà, c'est le trou, quoi. Généralement, on profite d'un ravin pour mettre des trous. Voilà. Job, il est sur un tas d'immondices où il y avait toutes les poteries cassées, mais avec les poteries, il y avait aussi tous les déchets ménagers, tout ce qui était puant, impur, qui communiquait donc une impureté personnelle aussi. Et c'était habité ou visité par les chiens ou les hyènes qui venaient manger des résidus. Donc c'est le lieu de pourriture. Et Job choisit comme retraite cet endroit-là. Et il va le dire d'ailleurs. Au chapitre 30, Job dit « Je suis l'objet de leur chanson. Ils me crachent au visage. Ma gloire est emportée comme par le vent. » On pourrait très bien reprendre ces trois affirmations du chapitre 30 à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'objet des chansons de ses détracteurs. On lui crache au visage. Sa gloire est emportée par le vent. Donc on va voir Christ à travers Job. Mais jusqu'ici, on peine. On peine à y trouver notre chemin et à se dire, mais en quoi est-ce que cela... rejoint notre problématique d'adoration désintéressée. Eh bien, il y a plus saisissant encore dans la vie de Job. Au début, avez-vous remarqué sa pratique spirituelle ? Ça vous dit quelque chose ? Une pratique spirituelle toute concrète, toute matérielle, cultuelle. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait peut-être, mes fils ont-ils péché ? Ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Autrement dit, Job agit en lieu et place du prêtre. C'est pourquoi on classe le livre de Job comme un livre vraisemblablement rédigé à l'époque des patriarches. C'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas encore de culte. Au temple de Jérusalem, ou même à l'époque de Moïse, avec le tabernacle. C'est antérieur à cela, c'est l'époque des patriarches où le père de famille était le prêtre pour sa famille. Et donc, Job apporte lui-même, sur ses deniers personnels, si j'ose dire, de quoi offrir une expiation. Expiation, c'est un terme technique qui signifie offrir un sacrifice de remplacement à la place du péché de ses fils. Le texte ne dit pas qu'ils ont expressément péché, mais il offrait ce sacrifice au cas où. Donc Job est prêtre à la place de intermédiaire entre sa famille et Dieu. Et puis à la fin, il va reprendre ses bonnes habitudes spirituelles. Alors, comment ça se termine, l'histoire de Job ? Eh bien, j'ai passé sous silence un quatrième personnage. Je vais continuer de le passer sous silence. Il s'appelle Eliu. C'est pas un des trois consolateurs fâcheux. Il vient là un peu à la fin. Il se tait et on ne sait pas trop où le placer. Alors... vous posez la question à Pierre pour savoir les explications mercredi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas la posture d'Eliu. Il a sans doute un rôle dans ce récit. Il parle beaucoup. Il dit des choses très intéressantes. Mais voilà, je passe sous silence pour que vous ne me disiez pas à la sortie. Mais dis-donc, c'est un peu facile. Là, tu ne nous as pas parlé d'Eliu. Oui, j'assume. Je n'ai pas parlé d'Eliu. Je ne sais pas quoi en dire. Voilà. Mais alors, comment se termine l'histoire ? Job a beaucoup parlé, les trois amis, ils ont cassé leur amitié, tout est détruit. Et d'un seul coup, l'Éternel s'adresse à Job, au milieu de la tempête. Il lui montre toute sa gloire, et devinez,
il ne lui donne pas le début du commencement de la vraie explication. Job ne saura jamais rien.
Ça nous rappelle la première partie du culte. Il ne saura jamais rien. Et c'est pas le problème.
Par contre,
Dieu va lui dire quelque chose. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. »
Ouh ! « Ma colère s'est enflammée contre Éliphaz. » Éliphaz, ça a l'air d'être le chef de meute. Il est pris à partie par Dieu et il lui dit, Dieu lui dit, « Tu as gravement péché parce que tu as mal parlé de moi. » C'est étonnant.
Éliphaz, Bildad et le troisième, ils ont parlé que de Job.
Non, ils ont mal parlé de Dieu. Et là, Dieu va demander à ses trois amis quelque chose de très curieux.
Il va leur demander, allez voir le prêtre.
Allez voir quelqu'un qui va pouvoir intercéder pour vous
et rappeler la chose. Ils sont allés voir qui ? Job. Waouh ! Moi, à la place de Job, j'aurais dit à l'Éternel, tu peux chercher quelqu'un d'autre parce que je leur en veux un peu. Et Job est là, debout. De Job, Jésus est debout.
Et il va recevoir de la main de ses trois amis 7 taureaux, 7 béliers, ainsi que l'avait ordonné Dieu. Et Job, le serviteur de Dieu, priera pour ces trois hommes. Et écoutez ceci. Dieu dit à ses trois amis, par égard pour Job lui seul, je ne vous traiterai pas selon votre folie.
Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture.
Comme a fait Job. Job a parlé de Dieu, c'est marqué là, avec droiture.
Donc Eliphaz, Bildad, Tsophar, Aler, firent comme l'Éternel leur avait dit.
Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Voilà l'œuvre du Christ dans la personne de Job. Seul Christ a démontré qu'il existe une relation totalement désintéressée, une relation d'amour entre un homme et son Dieu. Lui seul l'a fait. Nous tous, laissés à nous-mêmes, nous allons immédiatement mettre en marche des raisonnements qui appartiennent à la géographie des trois vieux amis. Et ça, il nous faut quitter ce terrain-là, ou même refuser de commencer d'envisager d'y pénétrer. Oui, Job sauve ses amis. Sauve ses amis qui l'avaient traité de criminel, d'impie, de s'être enrichi sur le dos des pauvres, par truandise, etc. Je vous en ai passé, hein, parce qu'il y en a eu d'autres. Job sauve ses amis en priant pour eux sur ordre de Dieu. Je corrige, Jésus sauve ses amis en priant pour eux sur ordre de Dieu. Oui, notre relation à Dieu est intéressée. Satan, en pariant sur nous, a toutes les chances de gagner. Cette relation à Dieu est polluée, mais Dieu nous envoie Job pour prier pour nous et pour nous retirer de toute cette logique religieuse, de toute cette logique de tractation, si bien qu'il nous amène sur un terrain où sa bonté à Dieu, au nom de Jésus-Christ, vaut mieux que la vie. Sa bonté nous est assurée.
On va continuer à avoir des questions, on va continuer à avoir des difficultés. Mais le psaume 63 a bien raison. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Elle est assurée en Jésus-Christ. C'est ce que je vous invite maintenant à chanter après un petit moment de réflexion. Nous allons le chanter de manière... Décidément, Adrien, on s'est mis d'accord sans se mettre d'accord. On va réviser tous les chants aujourd'hui, enfin réviser leur façon dont on les chante. « Car ta bonté vaut mieux que la vie », psaume 63, il se termine par des « laï, laï, laï ». Mais j'ai pensé qu'avec l'histoire de Job en arrière-plan, ces « laï, laï, laï » n'étaient pas tout à fait... c'était pas la bonne interprétation. On va essayer de chanter « Car ta bonté vaut mieux que la vie », pas légèrement, mais en priant, dans une sorte de méditation, un chant méditatif. « Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. » Et on a... voilà, j'en dis pas plus. Vous allez continuer à méditer cela avec ce chant. Donc, les « laï-laï » vont s'afficher, donc oubliez-les. On n'a pas pu les enlever parce qu'ils sont sur une seule diapositive. Donc, on ne va pas les chanter. On va chanter deux ou trois fois. Les musiciens verront. « Sa bonté vaut mieux que la vie. » Amen.